Alors, premier sujet ce matin, COP24, oui. Après, semble-t-il, d'âpres discussions, l'entente a été signée.
Ben, je trouve que tu as bien résumé la situation. Cette entente-là est décevante au bien du monde parce que elle va pas plus loin que l'accord de Paris. C'était peut-être pas son but, semble-t-il. Puis là, j'apprenais ça un petit peu, moi. Quand il y a eu un accord comme l'accord de Paris qui a eu lieu il y a 3 ans, je pense, il y a ensuite une réunion pour mettre en œuvre l'accord. C'est-à-dire, comment, quel est, et dans ce cas-là, il y a une espèce de mode d'emploi, un guide qui est essentiellement pour dire dans chacun des pays, on va s'entendre pour savoir comment évaluer les effets des mesures qui sont mises en place par chacun des pays. C'est essentiellement ça. Et donc, il n'y a pas d'engagement nouveau à aller plus loin, alors que le rapport du groupe sur le rapport du GIEC disait, écoutez, ce qui a été entendu à Paris, c'est insuffisant si on veut atteindre un objectif raisonnable, c'est-à-dire de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, cet accord en Pologne aurait dû aller peut-être plus loin ou confirmer les intentions des différents pays qui ont signé l'accord de Paris. C'est pas ce qui s'est passé. Ils sont entendus sur ce mode d'emploi-là, puis on reviendra sur l'autre partie dont tu as parlé aussi, qui est le financement de tout cela.
T'sais, on peut être cynique et dire, mais après l'accord de Paris, après toutes ces études qui montrent que le réchauffement est une réalité, que le réchauffement s'accélère, on a su là, tout récemment que juste l'espace entre une augmentation de 1,5 à 2 degrés, même si ça nous semble très petit, ça va être un impact immense sur le climat. On sait tout ça. Là, les pays se réunissent à Katowice, en Pologne, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un mode d'emploi pour faire le suivi des implantations, des mesures qui vont être implantées dans les différents pays. Tu peux être cynique, mais en même temps, quand je parle de la difficulté à implanter des traités internationaux, c'est ça que je veux dire. Il faut arrimer tout plein d'intérêts, de variables, de lois à l'intérieur de ces pays-là, qui sont des dizaines et des dizaines, et c'est extrêmement complexe. Mmh. Ça se fait pas comme ça. Même si la science est claire, chacun des pays... Prenons les États-Unis. Les États-Unis arrivent à la table. D'abord avant tout, ils veulent pas ralentir leur développement économique au profit de la Chine.
Et ils sont retirés de l'accord de Paris. Ça a été la première chose que Trump a faite.
Et t'as d'autres pays comme ça aussi qui disent, OK, mais moi, si je le fais, est-ce que je me mets en situation de désavantage face à mes voisins? Les pays ont à l'intérieur, regardez au Canada, on a une industrie pétrolière, une industrie gazière qui crée beaucoup d'emplois. Et on voit comment le gouvernement Trudeau, qui est progressiste sur ces enjeux-là, est obligé de faire la split entre différents, entre différentes réalités, parce que à l'Est, les gens sont généralement pas très chauds à l'industrie pétrolière. À l'Ouest, ils le sont. Mais là, multiplie ça à l'échelle de la planète. C'est sûr qu'après le traité de Paris, t'arrives à Katowice, puis ce que t'as, c'est, comme ils appellent là, une sorte de mode d'emploi. Ben, le mode d'emploi, ce sera évidemment pas assez. Mais pour des dizaines de pays avec qui ont à l'intérieur de ces pays-là des intérêts divergents, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire, même si c'est bien plat.
Il y a l'autre aspect, c'est que les pays comme le Canada, le Québec, j'aime bien l'expression, c'est on fait maintenant la split d'une mer à l'autre. La nouvelle définition du Canada, la split d'une mer à l'autre. Bref, ces pays-là, nous, on a quand même des ressources financières, économiques, qui nous permettent de poser des gestes significatifs. Mais il y a bien des pays qui n'en ont pas. Puis en particulier, il y avait là, ce qu'ils appelaient des États insulaires, c'est-à-dire ceux qui, inévitablement, vont disparaître parce qu'ils vont être submergés par l'eau des océans qui va monter avec la fonte des glaciers. Donc, ces pays-là disent, nous autres, on n'a pas les moyens d'agir. Il faut que vous agissiez chez vous et que vous financiez dans bien des pays pauvres, je pense à l'Afrique, à l'Asie, des mesures pour leur permettre de réduire leurs gaz à effet de serre. Puis, ça m'amène à l'entrevue que tu avais avec Dominique, fier promoteur
du pacte
et aussi son optimisme. Puis, je l'écoutais, puis je me disais, ouais, puis je pense que c'est la seule attitude qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est de se sentir isolé en train de poser un geste sans conséquence. Parce que c'est à ça qu'on est réduit souvent. Tu dis, oh, je vais essayer de manger moins de viande. Tu sais, tu dis c'est insignifiant par rapport au réchauffement climatique. Mais en même temps, il faut, je pense, et en ce sens-là, l'accord est important parce que faut se rendre compte qu'on est vraiment des millions qui sommes en mesure de poser des gestes. Puis c'est important. Il faut savoir que on peut pas demander, par exemple, en France, aux gilets jaunes, les contraindre à baisser leur niveau de vie sans qu'ils y consentent. S'il y a un effort collectif à faire, il faut qu'il soit consenti. Et il va être plus facilement consenti par les gens qui ont déjà assuré leurs besoins premiers, là. Tu sais, qui se nourrissent, qui ont un logement, qui peuvent se déplacer, qui ont une vie. Alors, on est en mesure de modifier un peu ce comportement-là, puis peut-être de poser des gestes qui sont écologiques, puis pour lesquels il y a un coût, et ne pas imposer à tout le monde qui sont en besoin de nourriture ou de logement des mesures qui vont rejeter à juste titre. Donc, l'optimisme est une bonne position pour essayer de soutenir ce que les accords internationaux n'arrivent pas à faire.
Mais c'est ça, vous savez, moi je suis un peu fataliste là-dessus. Et j'ai souvent dit ici, ailleurs, à quel point je trouve que c'est une tâche quasiment impossible de prendre tous les intérêts de tous les pays, d'arrimer ça et d'arriver à des mesures concrètes, vigoureuses. Et je pense qu'on est davantage à l'époque, maintenant, où on devrait commencer à penser comment on va vivre les changements climatiques. Tu parlais des États insulaires, pour situer les gens, là, ce sont des toutes petites îles qui vont fatalement disparaître parce que le niveau des eaux monte. Mais on devrait commencer à penser à des enjeux semblables. On devrait commencer à penser de façon beaucoup plus sérieuse, à mon sens, moins alarmiste, à question des réfugiés. Il va y avoir des réfugiés climatiques.
Clairement.
Peut-être mais, pas au mais Canada, moi, je ferais un bémol. En fait, pas un bémol, mais il y a deux enjeux majeurs qu'on voit depuis 2-3 semaines, là, plus clairement encore qu'avant, là. L'environnement et les migrations.
Oui, oui, les deux sont liés.
On a vu l'entente de Marrakech. On a vu encore, c'était pas majeur comme manif en fin de semaine, là, mais quand même. Mm-hmm. On a vu les gilets jaunes qui... Il n'y avait pas que ça, là, mais la taxe sur le carburant, mm-hmm. ça les faisait suer, ça les dérangeait. On a encore une étude qui nous montre que la consommation d'énergie augmente sans cesse.
Absolument.
Alors, ce que je dis, là, c'est qu'il va y avoir une confrontation entre ceux qui veulent avoir des politiques sur les changements climatiques, ceux qui veulent avoir des migrations plus ordonnées et ceux qui pensent qu'il faut fermer les frontières, puis ceux qui pensent que les changements climatiques, c'est juste une façon d'aller pomper plus d'argent qu'autre chose.
Mais d'avoir des par exemple, des migrations, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Un peu partout, là, on le voit, il y a des clashs en Occident. Mais d'avoir des migrations ordonnées, c'est une ambition, mais tu peux pas, c'est dur d'avoir une juridiction, une influence sur des milliers de gens qui décident que dans un pays, ils ne peuvent plus vivre là avec leur famille et qui se mettent à converger vers des pays d'Europe, vers des pays d'Amérique. On devrait commencer à penser à des enjeux comme ça. Le pacte de Marrakech, c'est-tu parfait? Je pense pas que ce soit parfait. Mais c'est peut-être le début d'une réflexion. Parce que quand le véritable impact des changements climatiques va commencer à affliger population, on va devoir dealer avec ça. Les îles de la Madeleine, on l'a vu, les îles de la Madeleine, il y a eu une tempête récemment. Mais les îles, ce qu'on constate, c'est que l'érosion de cet archipel-là dans le golfe du Saint-Laurent, l'érosion commence à faire son œuvre. Les gens des îles, si on a besoin de les replacer, on les replace où? Mais ce sont des enjeux comme ça auxquels il va falloir commencer à réfléchir et à mettre autant de jus de cerveau qu'on en met sur essayer de ralentir le réchauffement climatique.
Moi, je dis... C'est tellement global, le réchauffement, les événements, le réchauffement climatique, qu'on va aller inévitablement vers la nécessité d'une plus grande équité de la richesse, la répartition de la richesse d'une part, puis dans l'ouverture au partage avec les gens de partout. C'est aussi fondamental que
c'est
ça.
C'est beau, mais ça se fait pas demain.
Hey, que ça va être compliqué, mon ami. On n'a pas fini d'en parler. Mais c'est ça que ça veut dire, pareil. C'est aussi vaste que ça.
Bon, parlons de baseball au retour quand même. Est-ce qu'il faut ramener les expos? Est-ce que ça prend un nouveau stade au centre-ville de Montréal? La 13,